bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a pris l'autre jour une décision soudaine et pour tout dire brutale. Au moment de présenter à la presse le volume annuel qui recensait les propositions du Haut Comité des Célébrations Nationales pour 2011, volume qu'il avait préfacé élogieusement, il a pris le parti de livrer l'ouvrage au pilon en expliquant, à la suite d'une intervention de Serge Klarsfeld, qu'il estimait incongru à la réflexion d'y laisser le nom de Louis-Ferdinand Céline qui y figurait pour le 50e anniversaire de sa mort. Cette présence, expliqua le ministre, lui paraissait à la réflexion incompatible, je cite, « avec les valeurs fondamentales de la nation et de la République ». En 1985, Bertrand Poirot-Delpech écrivait dans Le Monde « La cause est entendue, Céline est géniale. La cause est entendue, Céline est abjecte. Depuis que Céline est mort, nous tournons fous dans ce débat entre esthétique et morale. » Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS, mon invitée ce matin, va bientôt publier un livre important sur la responsabilité de l'écrivain, c'est son titre. J'ai donc le projet, dans le cadre de cette journée de France Culture consacrée à Céline, j'ai le projet de prendre du recul avec elle en face de cette question de si grande importance éthique et civique. En évoquant la richesse des débats qui se sont déployés sur ce sujet en France, dans les années marquées par la Seconde Guerre mondiale, l'occupation et la libération, et en remontant jusqu'au temps de la Troisième République, qui vit déjà les meilleurs esprits s'affronter autour de cette interrogation parfois désinvolte et plus souvent angoissée. La littérature peut-elle tout dire et tout défendre? La démocratie peut-elle l'en blâmer et éventuellement l'en punir? Et d'abord la voix de Céline lui-même en 1957, dans sa retraite de Meudon, 4 années avant sa mort.
Disons le mot, vous avez été antisémite.
Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien. Je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites. Je n'ai pas de raison. Mais autant qu'ils étaient, qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les jansénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV. Il avait des raisons aussi pour évoquer l'édit de Nantes, n'est-ce pas? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas? Alors, voilà, n'est-ce pas, je me suis pris pour Louis XV, pour Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas, et tout simplement me taire, n'est-ce pas. Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas, et je l'avoue, par vanité, par bêtise, n'est-ce pas, je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas. Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je suis né à l'époque, on parlait encore de l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas. Tout ça, c'est une vraie bêtise dont je fais les frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toute espèce de gens qui me trouvent transfuge, relapse, vendu, etc. Enfin,
qu'est-ce que vous pensez de cette opprobe?
Oh, rien du tout. Je dis que bientôt j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an, et que, mon Dieu, je resterai bien tranquille. Et je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison.
Gisèle Sapiro, bonjour.
Bonjour.
C'était donc Céline, vous l'avez reconnue, au micro d'Albert Sbinden en juillet 1957 pour la radio suisse romande. Il est dans sa retraite. Quelle réflexion vous inspire la position qu'il adopte à propos de notre thème de la responsabilité de l'écrivain ?
Eh bien, dans cet extrait, évidemment, il essaie d'atténuer sa responsabilité le plus possible. Il invoque le droit à l'erreur, qui était un des arguments invoqués à la Libération en défense des collaborateurs, en parlant de problèmes qui le dépassent, de vanité, d'orgueil. Il euphémise beaucoup. Il fonde son antisémitisme sur l'idée que les Juifs ont poussé à la guerre. C'était un argument antisémite de l'époque. Mais ce qu'il minimise, c'est la dimension raciale, biologique de son antisémitisme. Il était médecin, il était partisan de l'eugénisme, enfin il s'est impliqué aussi en tant que médecin dans la collaboration, quasiment plus qu'en tant qu'écrivain. Et puis l'argument qui consiste à dire « il faut qu'on me prouve que je me suis trompé », c'est un argument fallacieux puisque, en fait, dans tout ce qui relève de la diffamation, la charge de la preuve est à celui qui a diffamé et pas aux personnes qui sont diffamées.
Alors la question se pose évidemment quand on rapproche ces déclarations des écrits de Céline, en particulier Bagatelle pour un massacre, tous ces écrits qu'on n'a même pas le droit ou le goût pour l'instant de rééditer, et qu'il faudra un jour rééditer avec des notes en bas de page pour expliquer ce qui y est dit. Et quand on rapproche les deux, on comprend que le débat lancé par Frédéric Mitterrand est agité récemment, les milieux intellectuels et universitaires, avec des réactions diverses.
Oui, le débat rappelle tout d'abord le lien étroit entre littérature et nation. Depuis la Troisième République, la littérature doit incarner, illustrer la culture nationale. Et en contrepartie, l'État rend hommage à ses écrivains les plus illustres par des célébrations nationales post-mortem. En 1885, les cendres de Victor Hugo ont été transférées au Panthéon. Ça a été le moment un peu inaugural de ce mariage entre la littérature et la nation. Et cette partie, donc ce versant de la responsabilité mérite, hein, c'est la contrepartie de la responsabilité sanction. C'est-à-dire on attend aussi de l'écrivain de remplir certaines valeurs de la République. Mais le débat rappelle aussi que l'État reconnaît à la littérature une certaine autonomie. Ce n'est pas des roulettes qu'on célèbre. Ce sont des écrivains qui sont reconnus par leur père, qui ont pu d'ailleurs combattre le pouvoir politique, hein, comme Sartre. L'État reconnaît la liberté d'expression, la liberté de création, tant qu'elle ne transgresse pas les limites de cette liberté. Or, Céline a transgressé l'interdit d'incitation à la haine raciale dans ses pamphlets et c'est là qu'il y a conflit entre les valeurs de la liberté d'expression et les valeurs de la liberté de création.
C'est ce qu'évoquait d'ailleurs Poirot Delpeche dans le propos que j'ai cité. Un abject, voilà. Et en même temps génial. En fait, on peut se demander si, enfin, c'était ma conviction en tout cas, que s'il ne vaudrait pas mieux que le Haut Comité des célébrations nationales s'appelle des commémorations nationales. On ne va pas célébrer la Saint-Barthélemy, mais il est légitime de la commémorer. Il me semble que du point de vue de nos valeurs, il faut célébrer l'édit de Nantes, mais qu'il faut seulement commémorer sa révocation.
Alors ça me paraît une distinction tout à fait importante. Il y a aussi un autre point qu'on pourrait évoquer, c'est que, évidemment, ce n'est pas le Céline des pamphlets qu'on s'apprête à célébrer, mais celui du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, qui sont des œuvres qui ont marqué l'histoire littéraire. Mais le débat rappelle aussi qu'il y a un lien étroit entre l'auteur et ses écrits, qui sont considérés comme la manifestation de sa personnalité. C'est la notion d'œuvre qui englobe, et le problème, en fait, d'ailleurs, ne se poserait pas si on commémore une œuvre en particulier. Mais c'est parce que c'est la personnalité de l'auteur. D'où la tentative, dans le cas Céline, de dissocier l'écrivain du pamphlétaire. Cette dissociation a une histoire. Elle remonte au début des années 50. Gallimard reprend l'œuvre de Céline au début des années 51, qui est l'œuvre était parue initialement chez De Noël, tandis que les pamphlets antisémites qui étaient également parus chez De Noël, donc il y avait une sorte d'unité de l'œuvre de Céline, ne sont pas réédités, d'ailleurs à la demande de Céline lui-même. Ce qui fait que cette dissociation est permise par une situation éditoriale. Et cette dissociation est également prise dans les polémiques de la Libération autour de la question de la responsabilité de l'écrivain. Elles ont été provoquées par les procès de l'épuration, au cours desquels les hommes de lettres, les intellectuels, ont été jugés pour le crime d'intelligence avec l'ennemi, qui les exposait en fait à la peine de mort.
Alors on trouve dès ce moment-là la grande question de savoir si le talent, dans certains cas, on peut peut-être parler de génie, je ne sais pas, est un facteur aggravant ou atténuant. Je vous proposerai deux brèves citations contradictoires à cet égard qui remontent précisément aux années qui ont suivi la Libération. Henri Miller, à propos de Céline, « Le monde peut bien fermer les yeux sur les erreurs, s'il s'agissait d'erreurs, de quelques hommes éminents qui ont tant contribué à notre culture. » Et en face, Mauriac, à propos de l'écrivain journaliste Henri Béraud, condamné à mort et d'ailleurs gracié en décembre 1944, si Béraud avait commis le crime pour lequel il a été condamné, son talent ne serait pas, à mes yeux, une excuse. Fin de citation. On a là vraiment les deux points de vue.
Voilà, tout à fait, c'était l'enjeu même du débat. La dissociation entre l'écrivain et le polémiste faisait partie des stratégies de la défense dans les procès. Les polémistes pouvaient s'être trompés, mais il fallait sauver l'écrivain qui était en eux, qui était une des gloires de la nation. C'est surtout à Paris dans le procès de Brasillac. Donc pour la défense, le talent constituait une circonstance atténuante. Mais pour l'accusation, le talent était au contraire un facteur aggravant. Non seulement il n'était pas une excuse, mais c'était même un facteur aggravant. Pourquoi ? Parce qu'il renforçait l'autorité de l'écrivain, donc son influence, son pouvoir symbolique. Et lors du procès de Brasillac, le commissaire du gouvernement Reboul lui a reproché d'avoir abusé de ses dons, de ses succès, de cette autorité.
En fait. Je rappelle que Brasillac a été condamné à mort et que le général de Gaulle a refusé de le gracier.
Le général de Gaulle écrit dans ses mémoires de guerre, en faisant allusion à ce refus, il ne cite pas nommément Brasillac, mais on se doute bien qu'il s'agit de lui. Dans les lettres comme en tout, le talent est un titre de responsabilité.
Voilà, alors lui a pris parti, effectivement. On retrouve dans ces années-là le débat à propos de l'épuration qui oppose ce qu'on a appelé les indulgents et ce qu'on a appelé les intransigeants. Et comme c'est au cœur de la question de la responsabilité de l'écrivain, je voudrais, Gisèle Sapiro, que vous nous rappeliez les termes de cette controverse.
Oui, cette controverse, tout d'abord, ces termes sont empruntés à la Révolution française, hein, les indulgents et les intransigeants. C'est une question qui a très rapidement divisé la communauté littéraire à la suite de l'exécution de Robert Brasillac. Le camp des intransigeants était formé par la jeune génération, en gros. Les indulgents se recrutaient plutôt parmi les anciens. Donc la jeune génération, c'était qui ? C'était Camus, Sartre, Vercors. Il y avait aussi Paul Éluard qui était un peu plus ancien, mais qui appartenait encore à cette génération. En face d'eux, les partisans de l'indulgence, c'était les aînés, c'était Mauriac, Duhamel, Jean Paulhan, des gens qui s'étaient engagés dans la résistance et pas seulement des gens qui avaient eu des positions incertaines, ambiguës.
Le débat entre Mauriac dans Le Figaro et Camus dans Combat est resté célèbre.
Ce débat qui a été reformulé dans les termes justice ou charité, alors que la position de Mauriac qui était plus sur la ligne de Gaulle de réconciliation nationale.
Saint-François des Assises.
Voilà, on l'a appelé Saint-François des Assises en le tirant vers son identité d'écrivain catholique, alors que justement il se posait plutôt comme un écrivain national à ce moment-là. Ce débat, effectivement, a posé les cadres de la polémique. Et puis, le débat s'est cristallisé autour de la pétition de soutien au recours en grâce soumis par Brasillac, que les représentants de la jeune génération ont refusé de signer, à l'exception finalement de Camus, qui avait été pourtant le premier à poser ce débat dans des termes intransigeants, mais qui a fini par la signer parce qu'il était contre la peine de mort.
Vous évoquiez le cas de Jean Paulhan, qui a joué un rôle très important à ce moment-là, le pape de la NRF, la grande conscience des éditions Gallimard et au-delà. Il a été du côté des indulgents et c'est un peu curieux parce que dans les années 30, au contraire, il s'était posé comme intransigeant.
Dans les années 30, selon lui, il fallait que la parole de l'écrivain l'engage, sinon il serait déconsidéré. Il fallait que Maurras subisse sa peine de prison, il fallait aussi que Giono, pacifiste, subisse sa peine de prison. Dès la libération, en fait, Paulhan adopte une position qui est du côté de l'indulgence, c'est-à-dire il défend le principe du droit à l'erreur, voire du droit à l'aberration, dit-il.
Alors que lui-même avait été impeccable, évidemment, sous l'occupation.
Absolument.
Il est en contradiction avec ce qu'il écrivait avant la guerre. Je cite une lettre à Roger Martin Dugas. « Si la poésie, écrivait-il, comme les surréalistes l'ont toujours prétendu, est un danger redoutable pour la société, on est malvenu le jour où la société esquisse un geste, d'ailleurs timide, de défense, à se retrancher derrière l'art pour l'art. »
Après la guerre, il y a deux arguments chez Paulhan. C'est d'une part, on peut citer ce que l'avocat de Brasillac évoquait lors de son procès. Si l'on requiert la peine de mort contre un poète comme Brasillac, quelle peine réserve-t-on aux marchands de canons ?
C'est maître Jacques Isorni.
Voilà, maître Jacques Isorni, qui donc soulève la question de la hiérarchie des responsabilités, la hiérarchie des peines. Donc ça fait partie du débat entre les indulgents et les intransigeants. L'autre point soulevé par Paulhan, c'est l'idée que le crime réside dans les actes et non dans la parole, que la responsabilité incombe à ceux qui ont réalisé les idées plutôt qu'à ceux qui les ont émises. Il y a donc cette fameuse parabole du mur de l'Atlantique que je peux citer. L'épuration mène la vie dure aux écrivains. Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement. Ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs. Ils bâtissent les murs de nouvelles prisons où l'on enferme les journalistes qui ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti. C'est ainsi que nous autres gens de lettres avons fait fortune il y a 3 ans. Je parle d'une fortune morale. Toutes les fois qu'un écrivain avait suffisamment fait l'éloge du crime ou de l'immoralité, on prenait le parti jusqu'alors de l'appeler à l'Académie française. Mais vous avez changé tout cela. Le criminel vous a paru moins coupable que le littérateur qui l'invite au crime, le traître plus digne de pardon que l'idéologue qui lui conseille la trahison. Vous décidiez de vous en prendre désormais à l'auteur plutôt qu'à l'acteur, à sa cause plutôt qu'à l'effet.
C'est le temps aussi où quelqu'un comme Jean-Paul Sartre vient évidemment avec toute l'autorité nouvelle qui est la sienne, vient affirmer qu'il est normal que l'écrivain court des dangers. Il écrit dans « Qu'est-ce que la littérature ? Nous devons nous réjouir que notre profession comporte quelques dangers ».
Oui, et sa vraie réponse à Pollan va être de dire que l'écriture est un acte.
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait « On ne gouverne pas innocemment », il faut dire « On ne parle pas, on n'écrit pas innocemment ». Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps, plus qu'il ne pouvait, la position de l'art pour l'art. La littérature, aujourd'hui, est liée à la démocratie. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène curieux. C'est que des écrivains qui ne méritent pas encore, ou qui ne mériteront peut-être jamais leur réputation, les écrivains dont je suis et dont sont beaucoup d'autres de ma génération, ont déjà un public plus grand que des écrivains du premier ordre n'ont jamais eu au 19e siècle, par exemple. On rougit d'être traduit à l'étranger quand on pense au petit cercle qui connaissait Baudelaire de son vivant. Mais c'est un phénomène qui ne signifie rien d'autre que ceci. Il y a des journaux, il y a une radio, il y a du cinéma, mais qui en même temps, en élargissant le public, met l'écrivain dans un état de responsabilité beaucoup plus grand.
Il s'agissait d'une archive qui a été donnée à la radio en 1964, lorsque Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel, qui est antérieure, mais nous ne pouvons pas exactement la dater. Peut-être remonte-t-elle précisément aux années qui ont suivi la libération.
Oui, c'est ce thème, et c'est le thème qu'il développe dans la première conférence générale de l'UNESCO en 1946. Il pose le problème de la responsabilité objective de l'écrivain en lien avec l'élargissement du public. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est le lien qu'il établit entre littérature et démocratie. Et il va rattacher la notion de responsabilité à sa philosophie de la liberté. La littérature implique la liberté des lecteurs. Et donc, l'écrivain a une responsabilité pour assurer en fait cette liberté de ses lecteurs. C'est un point important parce que Sartre, en faisant cela, dénationalise la conception de la responsabilité qui prévalait jusque-là.
L'universalise, vous voulez dire ?
Oui, l'universalise, tout à fait. Il la dénationalise parce que les écrivains collaborationnistes sont jugés comme traîtres à la nation. C'est le moment où la notion de crime contre l'humanité vient d'être forgée au procès de Nuremberg, mais elle n'est pas encore appliquée ni applicable en France. Donc c'est en tant que traîtres à la nation que sont jugés les écrivains collaborationnistes. Donc cette dénationalisation de la notion de responsabilité est importante, elle est nouvelle et elle crée pour Sartre donc cette nécessité de l'engagement de l'écrivain comme un devoir envers ses lecteurs. La littérature est un acte de communication et de toute façon la littérature engage. Ceci renvoie évidemment au procès de l'épuration où la littérature est jugée comme un acte, comme on l'a dit, la littérature ou l'écrit est jugée comme un acte et cette conception de la littérature jugée comme un acte s'oppose à l'idée que ces procès seraient des procès d'opinion. Hein, parce que vous avez cité tout à l'heure Henry Miller. Effectivement, il y a eu un appel des intellectuels américains en faveur de Céline, signé entre autres par Miller, James Laughlin, Edmund Wilson, Robert Parker, qui dit qu'en l'absence de toute preuve portant sur des actes concrets, il n'y a pas, selon nous, matière à juger ou à punir Céline pour avoir simplement exprimé des opinions, si impopulaires soient-elles. Donc le débat des procès de l'épuration, c'est est-ce que ce sont des opinions ou est-ce que ce sont des actes ? Et la justice de l'épuration, fondée sur cette notion d'intelligence avec l'ennemi, condamne les paroles comme des actes de trahison en donnant en fait à la parole un pouvoir performatif.
L'autre période ultérieure où la question de la responsabilité de l'écrivain s'est posée, ce sont évidemment les guerres de décolonisation et en particulier la guerre d'Algérie avec ce qu'on a appelé le manifeste des 121.
Oui, absolument. Et donc Sartre était un des signataires de ce manifeste. Et également la nouvelle génération des nouveaux romanciers, bien qu'ils ne souscrivent pas à la conception de la littérature engagée de Sartre, mais ils souscrivent à la notion de responsabilité de l'écrivain. Et ils s'opposent en cela aux hussards qui, depuis le début des années 50, contestent la conception sartrienne de la responsabilité morale de l'écrivain en se réclamant de la subjectivité, de la singularité. C'est des gens comme Jacques Laurent qui ont développé cette idée.
Et en fait, Jacques Laurent, eh bien le voilà.
Ce sont les écrivains qui s'engagent, qui ont peur des prisons ou qui veulent y mettre leurs adversaires. Mais je crois qu'entre eux, bien sûr, il est très difficile de définir ce qu'est un écrivain et lui attribuer une mission parce que c'est complètement absurde. Les formes de l'écriture pouvant être tellement variées et les formes de l'écrivain également. Mais je crois que dans le temps que nous vivons, je ne dis pas que cela soit vrai pour toutes les époques, dans le temps que nous vivons, c'est-à-dire un temps où le pouvoir pèse, où le capitalisme pèse, où par le moyen de la publicité, le citoyen est sans cesse requis d'accomplir certains actes, de se découvrir certains besoins, où, je veux dire, jamais le citoyen, l'individu, le solitaire n'a été autant écrasé par la force des grandes structures politiques et économiques, c'est-à-dire n'a jamais été autant soumis à la pensée officielle. Eh bien, je pense que dans un temps où le citoyen est vraiment écrasé par la pensée officielle, le rôle de l'écrivain, si on veut à toute force lui en trouver un, est précisément d'être tout le contraire d'un officiel et d'être tout le contraire d'un engagé. S'engager, ça veut dire que l'on renonce à sa personnalité, à ses singularités, pour suivre une cause, un parti, un groupe, une masse, etc. Eh bien, que jamais plus qu'en notre époque, on a eu besoin de gens qui étaient libres, mais même par rapport à eux-mêmes, et qui pouvaient changer d'opinion en 5 minutes, et qui pouvaient simplement suivre leurs humeurs. Et que ce besoin qu'il y ait des hommes qui suivent leurs humeurs, au lieu de suivre les impératifs d'une société écrasante, ce besoin deviendra d'année en année plus grand.
Jacques Laurent s'exprimait là le 1er janvier 1970, dans l'émission La boîte de Pandore de Jean-François Noël. On a l'impression, c'est un peu paradoxal, qu'il y a là une sorte d'engagement du non-engagement.
Oui, enfin, ce qui est frappant dans cette citation de Jacques Laurent, c'est que c'est une sorte de renversement par rapport à toute l'histoire de la notion de responsabilité, parce que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette notion était accaparée par les écrivains conservateurs, la droite intellectuelle, qui l'utilisait contre la littérature moderne, qu'elle accusait de faire valoir ses singularités comme une forme d'anomalie et d'irresponsabilité. Et du fait de l'accession de la génération de la résistance un peu au centre de la scène littéraire à la libération, et du fait de l'importance et de la renommée qu'a eu la théorie sartrienne de la littérature engagée, il y a un repli de cette jeune droite des hussards au début des années 50 sur ce qui avait été les valeurs de la modernité littéraire, comme précisément la singularité, l'art pour l'art. Et c'est intéressant parce que, c'est, en fait, d'un côté, la figure de l'intellectuel responsable se fonde sur l'idée que l'écriture est un acte rationnel. Mais il existe depuis le 19e siècle une conception irrationnelle de la création qui exempte de la responsabilité. On assimile l'écrivain au fou, au primitif, à l'enfant. Et c'est surtout le poète, ces figures de Nerval ou de Hölderlin. Même la théorie surréaliste, en fait, qui fait appel à l'inconscient, qui dit que la poésie est le fruit de l'inconscient, finalement exempte l'écrivain de la responsabilité. Et cette exemption a été une circonstance atténuante dans le cas d'Ezra Pound, dans son procès.
Enfin, il a été, Ezra Pound, rappelez quel était le procès d'Ezra Pound.
Il a été, pour son engagement fasciste, mais il a été finalement interné dans un asile d'aliénés.
Il s'agit du grand poète américain, Ezra Pound.
Et cet argument de la folie était évidemment évoqué dans le cas Céline par Milton Hindus dès la libération 46-47, qui va le rejoindre au Danemark et qui livre des études sur son état psychique pour montrer qu'il n'est pas dans la possession complète de ses facultés.
Vous évoquez la question nationale. Il y a un homme qui a incarné avec quel éclat la nation, dans ces années d'après-guerre, c'est le général de Gaulle, bien sûr. Or, sa position est intéressante par rapport à l'engagement de l'écrivain, puisque lorsque on le pousse dans son milieu, certains de son milieu le poussent à sévir contre Sartre au moment de la guerre d'Algérie, il dit « on n'emprisonne pas Voltaire ». Il a ce commentaire, citant Villon, Voltaire et Romain Rolland, il dit « ces gens-là ont causé bien des tracas au pouvoir public en leur temps ». Mais il n'en est pas moins indispensable que la liberté de pensée et d'expression des intellectuels demeure respectée, mais il ajoute, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence, dans toute la mesure compatible avec l'obéissance aux lois de l'État et avec le souci de l'unité de la nation. On est en 1960 quand de Gaulle dit cela.
Oui, donc il y a une reconnaissance de la fonction critique de l'écrivain et de l'intellectuel dans la société qui apparaît aussi dans les procès de l'épuration, puisqu'en gros, on reproche aux intellectuels de ne pas s'être élevés contre la politique du régime de Vichy, la politique de collaboration. Donc on attend d'eux, en fait, ce qu'ils ont imposé comme leur propre éthique, c'est-à-dire l'idée que l'écrivain, l'intellectuel, doit remplir une fonction critique et que c'est son rôle dans la société. C'est une idée qui remonte aux philosophes du XVIIIe siècle et qui prend corps sous la Restauration avec l'avènement du régime de liberté de presse. Il y a des écrivains libéraux comme Béranger, comme Paul-Louis Courier, qui vont revendiquer le droit de critiquer les institutions au nom de la vérité dont ils se font les porte-parole. Et c'est pour eux non seulement un droit, mais aussi un devoir, une mission, la mission de l'écrivain en régime parlementaire, parce qu'il faut qu'il donne des outils à son public pour réfléchir.
Vous revenez en arrière, Gisèle Sapiro. Je m'en félicite. Jean-Paul Sartre lui-même aimait à le faire par comparaison. Il disait « Le procès Calas, était-ce l'affaire de Voltaire ? La condamnation de Dreyfus, était-ce l'affaire de Zola ? L'administration du Congo, était-ce l'affaire de Gide ? Chacun de ces auteurs, en une circonstance particulière de sa vie, a mesuré sa responsabilité d'écrivain. » Et il ajoute qu'en revanche, il faut blâmer Flaubert d'avoir, comme Goncourt, cédé à la tentation d'irresponsabilité. L'un et l'autre sont responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher.
Oui, donc Sartre constitue une généalogie de l'intellectuel engagé en remontant effectivement à Voltaire puis à Zola qui sont ses figures de référence et en opposant la tradition de l'art pour l'art incarnée par Flaubert et par Baudelaire.
On remonte en fait aux Lumières. Aux Lumières, c'est Tocqueville qui, dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui met en cause la légitimité du pouvoir politique en disant comment des hommes de lettres qui ne possédaient ni rang, ni honneur, ni richesse, ni responsabilité, ni pouvoir devinrent-ils en fait les principaux hommes politiques du temps et même les seuls, puisque, tandis que d'autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l'autorité.
Tocqueville reconnaît là un processus historique qui est cet avènement de ce pouvoir intellectuel qui est se donne une fonction critique et qui va être centrale dans toutes les luttes pour la liberté d'expression dès le 18e et surtout dès la Restauration où il y a une véritable confrontation avec le pouvoir pour critiquer donc le pouvoir, le gouvernement, les institutions, etc.
Et cet affrontement est incarné par un homme, c'est Béranger. Béranger, dont la gloire de poète a été immense dans cette première partie du 19e siècle. Nous allons écouter une chanson, Le Bon Dieu, interprétée par Germaine Montero, un enregistrement de 1955. C'est une chanson du tout début des années 1820 qui a valu à Béranger d'être traîné en justice.
Un jour, le bon Dieu s'éveillant fut pour nous assez bienveillant. Il mit le nez à la fenêtre, leur planète a péri peut-être. Dieu dit et l'aperçoit bien loin, qui tourne dans un petit coin. Si je conçois comment on s'y comporte, je veux bien, dit-il, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Blancs ou noirs, gelés ou rôtis, mortels que j'ai fait si petits, dit le bon Dieu d'un air paterne, on prétend que je vous gouverne, mais vous devez voir, Dieu merci, que j'ai des ministres aussi. Si je n'en mets deux tout droit la porte. Je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Pour vivre en paix, vous ai-je en vain donné des filles et du vin à ma barbe, quoi, des pygmées, m'appelant le dieu des armées, ose-t en invoquant mon nom. Vous tirez des coups de canon. Si j'ai jamais conduit une cohorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Que font ces nains si bien parés sur des trônes à clous dorés, le front huilé, l'humeur altière, ces chefs de votre fourmilière disent que j'ai béni leurs droits et que par ma grâce ils sont rois. Si c'est par moi qu'ils règnent de la sorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Enfant, ne m'en veuillez donc plus, les bons cœurs seront mes élus. Sans que pour cela je vous noie, faites l'amour, vivez en joie, narguez vos grands et vos cafards. Adieu, car je crains les mouchards. À ces gens-là, si j'ouvre un jour ma porte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte.
C'est vigoureux, Gisèle Sapiron. On comprend que le garde des Sceaux de l'époque, de la Restauration, a eu un haut le cœur, lui qui avait fait adopter des lois en 1819 qui soustrayaient à la libre discussion les principes de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme.
Absolument. Donc la question de l'immortalité de l'âme, c'est évidemment la condamnation de toutes les doctrines matérialistes du XVIIIe siècle, qui commence à être réimprimée parce qu'il y a une réimpression importante à partir des ouvrages des philosophes. Béranger n'est pas tout à fait un libre penseur, mais il critique quand même les prêtres, il critique le gouvernement. Ce qui va conduire à son jugement, c'est le fait d'avoir imprimé ces chansons, parce qu'on avait une certaine tolérance pour les chansons. Louis XVIII aimait bien la chanson. C'était un genre d'ancien régime, on tolérait une certaine liberté. Béranger, en imprimant ses chansons, leur donne un statut, un prestige, une importance qu'elles n'avaient pas. Et le débat va être de dire qu'une fois imprimées, elles vont se diffuser, elles vont rester dans le temps.
Avec donc, un verdict qui est ?
Et il est condamné à la suite de ce procès, ce premier procès. D'ailleurs, il en aura deux autres ensuite. Il va faire quelques mois de prison où il va rencontrer un autre libéral qui est Paul-Louis Courier. Ils vont nouer amitié. Et ces séjours en prison vont lui apporter une certaine consécration, une reconnaissance. Le fait aussi d'avoir imprimé ses chansons, le fait aussi d'introduire dans les chansons de la poésie ce qui était interdit par principe, fait qu'il va obtenir la reconnaissance d'écrivains qui, à l'époque, ne sont pas du tout des libéraux, comme Victor Hugo, qui vont lui finir par lui reconnaître le statut de poète national.
Ce séjour en prison, d'une certaine façon, incarne bien l'opposition entre les principes du garde des Sceaux sur les vérités révélées et d'autre part de la liberté d'expression, posée comme un absolu.
Pour Béranger, en fait, le fait d'être en prison, c'est aussi un titre de gloire, d'une certaine manière. C'est une reconnaissance, en fait, de son audace, de son courage. Dans l'article Jean de Lettres de l'Encyclopédie, Voltaire fait l'éloge des hommes de lettres qui ont toujours pris des risques pour crier la vérité et ont été sujets d'opprobre. Et c'est pour cela aussi que Victor Hugo félicitera Baudelaire au moment de sa condamnation. Il le félicitera de sa flétrissure comme d'une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, donc en faisant de la responsabilité sanction une responsabilité mérite.
Et là, on est passé de la liberté d'expression à la liberté de création.
Sous le Second Empire, le débat se déplace. Bon, d'abord, la liberté d'expression est extrêmement restreinte par les nouvelles conditions de la censure, très dure.
Au moins pendant les 10 premières années de l'Empire.
Dans les 10 premières années de l'Empire. Et en 1857, il y a 3 procès qui sont restés célèbres. Celui de Flaubert, celui de Baudelaire et celui d'Eugène Sue. Ce qu'on leur reproche, en gros, c'est, si on résume, c'est d'avoir pris la morale pour objet. Et en prenant la morale pour objet, il y a un effet de relativisation qui s'opère. On reproche, par exemple, à Flaubert de ne pas avoir jugé Madame Bovary. Le fait qu'elle meure à la fin est considéré comme une punition pas suffisante, puisque c'est une mort volontaire. Donc, ça n'est pas le narrateur, ça n'est pas l'auteur qui prend parti.
Donc, il faut, dans cette conception, que le littérateur tire lui-même les conclusions morales des récits qu'il fait, ce qui peut d'ailleurs, dans certains cas, marquer quelque hypocrisie, parce qu'on peut raconter des choses horribles du moment qu'elles sont finalement punies à la fin.
C'était la conception classique, on peut dire, de la littérature. Alors Flaubert innove en adoptant cette posture objectiviste qu'il assimile à celle du savant, qui décrit sans prendre parti. Flaubert est fils de médecin, hein, il a fait des tournées médicales avec son père, donc il a ce regard clinique sur la société. Mais ce regard clinique, qui pourrait paraître sans, puisqu'il ne prend pas parti, ce regard clinique lui est précisément reproché. C'est une technique qu'il emprunte à Goethe. Et une autre technique qu'il emprunte sans doute à Goethe, c'est la technique du discours indirect libre, qui lui est également reprochée, parce qu'on prend le point de vue de son personnage, de Madame Bovary, pour le sien. Par exemple, dans la scène après son premier adultère, où elle se regarde dans le miroir, elle se trouve belle, là, on pense que c'est une glorification de l'adultère. Donc il y a une incompréhension qui est liée à la forme de l'œuvre, et pas seulement à son contenu. Mais précisément, Flaubert va revendiquer la responsabilité uniquement sur la forme, puisqu'il dit « moi, je décris la réalité ». Je décris le monde tel qu'il est. Cacher les choses, par exemple l'adultère, c'est de l'hypocrisie bourgeoise. Mais par contre, la seule responsabilité qu'il revendique, c'est sur la forme. Et c'est une nouvelle éthique, on peut dire, de la création qui s'affirme là, autour de valeurs proprement intellectuelles, c'est-à-dire vérité, beauté, sincérité, contre la morale bourgeoise dominante.
En l'occurrence, il y a une responsabilité du côté des bonnes mœurs que l'écrivain est supposé outrager. Et puis, il y a aussi la question des relations avec la nation que vous évoquiez tout à l'heure, Gisèle Sapiro. Et je voudrais que vous arrêtiez un instant sur un procès un peu oublié, mais assez significatif, qui est celui de Lucien Descaves, dont le livre Sous-Off, paru en 1889, qui est le fruit d'une observation de 4 ans dans l'armée de terre, crée des mouvements extrêmement violents du côté des responsables de l'armée française.
Oui, absolument. Alors, il faut d'abord rappeler que la Troisième République a décrété en principe la liberté d'expression, que dans les débats autour de la loi de 1881, il y a quand même un souci de ne pas refaire le procès de Madame Bovary, c'est-à-dire de reconnaître une certaine liberté de création.
Loi extrêmement libérale, promesse tacite de la République au suffrage universel, comme disait le rapporteur au Sénat.
Voilà, c'est la première grande loi libérale en France qui s'inspire de la loi de 1819, qui s'inspire aussi de la législation anglaise. Et c'est une loi qui privatise la religion, donc l'exclut du domaine de la morale publique, protégée par l'État. Mais en même temps, elle durcit les pénalités sur l'offense aux mœurs. Et l'offense aux mœurs va être en fait un article qui va permettre aussi de poursuivre pour des raisons idéologiques, comme dans le cas que vous venez de citer de Lucien Descaves, puisqu'il s'agit en fait d'une diffamation de l'armée, mais la diffamation de l'armée, ça ne revient qu'à une peine de 3 mois. Et en plus, dans les procès de diffamation, la charge de la preuve est au diffamé. Il suffisait que Lucien Descaves montre les extraits des conseils de guerre sur lesquels il s'était appuyé pour écrire son roman, pour qu'on lui donne raison. Donc en fait, le prétexte pour l'attaquer, c'est l'offense aux mœurs par le langage argotique de l'armée, les scènes libres décrites dans le roman. Ce qui est important aussi, c'est le contexte, c'est-à-dire que le service militaire vient d'être généralisé. Les écrivains font l'expérience du service militaire, donc ils reviennent avec des témoignages, donc commence cette littérature sur l'armée. Et donc ce roman Sous-Off décrit en fait les mœurs militaires d'une façon très réaliste, comme Descaves est un naturaliste, hein, c'est un élève de Zola.
En plus, on est dans les mois qui suivent la chute de Boulanger.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la nation, en fait, devient le nouveau principe sacré qui va se substituer à la religion. Donc, attaquer la nation, c'est en fait toucher au sacré. Or, un débat s'engage, quel est le rôle de l'écrivain? Est-ce que l'écrivain doit contribuer à cette sacralisation de la nation, ou est-ce qu'il doit dire la vérité dans un régime démocratique et, par exemple, dénoncer des problèmes dans l'armée qui permettraient, justement, après la défaite de 1870, de rétablir un certain ordre au sein de l'armée? Enfin, donc l'idée, c'est est-ce que l'écrivain a le droit d'écrire des tares de cette institution? Et il y a une confrontation entre le sous-officier, qui est un peu l'équivalent des prêtres que Béranger attaquait, et ces écrivains, ces nouveaux penseurs de la République, qui sont là en observateurs, en fait.
L'affaire de ce procès contre Descaves, qui aboutit d'ailleurs à un acquittement, est intéressant aussi parce qu'on voit une protestation de solidarité en défense de la liberté d'expression, qui est publiée dans le Figaro en décembre 1989. signé par 54 écrivains. D'une certaine façon, cela peut apparaître comme l'acte inaugural d'une pratique de mobilisation collective qui va se généraliser ensuite parmi les intellectuels.
Oui, c'est le premier recours à la pétition qui était pétition auprès du Parlement, premier recours public et qui préfigure d'une certaine manière, on peut dire, l'affaire Dreyfus de ce point de vue-là. L'affaire Dreyfus va porter sur la question de la vérité dans l'investigation judiciaire ou la raison d'État. Les intellectuels dreyfusards se réclament de la valeur de la vérité, une valeur intellectuelle donc universalisée, face aux anti-dreyfusards qui, eux, invoquent l'intérêt national qui doit limiter la liberté d'expression.
Il y a une sorte de duel symbolique entre d'un côté Émile Zola, dont on peut rappeler qu'évidemment avec son fameux « J'accuse » paru dans l'Aurore en janvier 1998, il vient provoquer un tournant essentiel dans l'affaire qui va aboutir finalement longtemps après à la mise hors de cause de Dreyfus, et d'autre part, Zola d'un côté, et d'autre part, Bourget, Paul Bourget.
Oui, donc il y a deux conceptions différentes de la responsabilité. Ici, Paul Bourget représente les écrivains catholiques conservateurs qui, au moment de l'instauration du régime de la liberté d'expression, disent qu'il faut limiter en fait cette liberté, que l'écrivain a une responsabilité et qu'il doit limiter sa parole. Ça renvoie au syllabus de l'Église de 1864 qui rappelle que parmi les erreurs modernes, l'idée que toute vérité serait bonne à dire. Hein, c'est une erreur moderne. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire selon cette conception et Bourget l'illustre dans son roman Le Disciple, où il montre les effets nocifs d'une doctrine indépendante de la volonté de son auteur, mais c'est en ce sens que s'il s'agit de responsabilité objective, mais qui, du fait de l'accès de plus en plus large à la lecture des nouveaux publics, grâce aux lois républicaines sur l'éducation primaire obligatoire, crée de nouvelles responsabilités à l'écrivain.
Paul Bourget, d'ailleurs, écrit dans Le Disciple, en 89, en s'adressant à un jeune homme, « Dans 20 ans d'ici, toi et tes frères, vous aurez en main la fortune de cette vieille patrie. Qu'auras-tu recueilli, qu'aurez-vous recueilli dans nos ouvrages ? Pensant à cela, il n'est pas d'honnête homme de lettres, si chétif soit-il, fausse coquetterie, qui ne doivent trembler de responsabilité. » Fin de citation.
Voilà, et on peut dire que Bourget est le premier à théoriser cette notion de responsabilité telle qu'elle, mais c'est une conception hétéronome de la responsabilité au sens où elle doit limiter la liberté d'expression au nom d'enjeux qui sont le maintien de l'ordre social, en gros. Face à cela, la conception de la responsabilité développée et incarnée par Zola dans l'affaire Dreyfus est une conception autonome de la responsabilité, au sens où il s'agit pour Zola de faire triompher, de faire éclater la vérité sur l'affaire, la vérité sur l'investigation judiciaire.
Eh bien, pour rappeler le rôle de Zola en cette affaire, j'ai choisi de donner la parole à Maurice Garçon, qui était un grand avocat à l'époque de la Troisième et de la Quatrième République. Et vous allez voir en quels termes il rend hommage à ce grand homme.
Le scandale fut immense. C'est un déluge de boue qui s'abattit sur Zola. On ne sait plus aujourd'hui ce qu'ont pu être les haines qui à ce moment étaient déchaînées. L'effigie de Zola fut brûlée à Rennes, à Nantes, à Nancy, à Bordeaux. Et puis on écrivit dans les journaux qu'il était vendu à l'Allemagne, on citait même le nombre de millions qu'il avait touché. Ailleurs, on disait qu'il avait été acheté par les Juifs, et pourtant, un grand réconfort lui était apporté par quelques-uns, c'étaient les jeunes. Autour de lui se réunit une phalange, le premier fut mon vieil ami Fernand Gregg, tout jeune alors et plein de feu. Et puis celui dont je suis devenu depuis le confrère à l'Académie française, M. Chevrillon. Et puis les frères Alévi, Rivoire, Marcel Prévost, Marcel Proust, Henri Boer, Peggy, André Gide, tous ceux-là vinrent autour de lui et Barrès, méprisant, avec une triste inconscience, écrivit qu'il composait la liste d'intellectuels faite en majorité de nigauds.
C'était donc Maître Maurice Garçon, l'avocat célèbre, dans une conférence qui remonte à 1952. Gisèle Sapiro, les choses sont dites avec l'éloquence du temps, mais efficacement. D'ailleurs, dans son procès, en face du général de Pélieu, qui fait valoir le sacrifice des officiers dont, dit-il, plusieurs ont versé leur sang sur le champ de bataille pendant que d'autres étaient je ne sais pas où, Zola, en face de ce général, s'écrit « Il y a différentes façons de servir la France. On peut la servir par l'épée, on peut la servir par la plume. » Monsieur le général de Pélieu a sans doute gagné de grandes victoires, j'ai gagné les miennes, je lègue à la postérité le nom du général de Pélieu et celui d'Émile Zola, Elle choisira. Il me semble qu'effectivement, elle a choisi.
Absolument. Et également sur le plan qui était celui du procès. Mais évidemment, là, ce que Zola dit, c'est le fondement même de la posture de l'engagement de l'intellectuel, c'est-à-dire celui qui intervient dans le domaine de la politique au nom d'une réputation acquise dans son milieu littéraire.
Et mais
sa notoriété
retourne,
en face de son public.
Il retourne à son profit l'idée même d'intérêt national qui servait à justifier l'encadrement de la morale publique. C'est peut-être ça qui est le plus notable dans cet épisode d'essence. Il se bat pour sa patrie.
Alors voilà, justement, c'est-à-dire que le rôle de l'écrivain, effectivement, qui est d'incarner la nation, qui va l'incarner aussi, comme il le dit clairement, après sa mort, puisque son nom restera, il continuera à illustrer, effectivement, Zola est présenté dans le monde comme un écrivain français, mais en se battant sur l'affaire Dreyfus, c'est effectivement pour sa nation qu'il combat, c'est-à-dire pour faire triompher la vérité, qui est une référence importante de la République, selon sa conception. Et en fait, il a appelé de ses voeux son procès, hein, on peut dire. Il a souhaité parce que le procès, pour lui, c'était une manière de faire, puisque il est donc jugé pour diffamation à l'armée.
Et condamné,
absolument. Ce qu'il espérait, en fait, dans le cas de son procès, parce que je l'ai déjà dit, dans les cas de diffamation, la charge de la preuve est à l'accusé en diffamation. Donc s'il pouvait faire la preuve que son propos n'était pas une diffamation, mais une réalité, il faisait triompher la vérité sur l'affaire Dreyfus. Or, ceci a été empêché, évidemment, parce que la plainte a été circonscrite de telle sorte qu'on n'a pas pu faire émerger la question de la culpabilité de Dreyfus. Et c'est le président de la Cour qui n'arrête pas de dire la question ne sera pas posée et qui empêche Zola de développer son argumentaire.
Défaite à court terme, évidemment, victoire à long terme, puisque c'est le moment essentiel dans la marche vers la vérité. Voilà pour la nation. La responsabilité de l'écrivain est à cet égard posée, affirmée. Elle l'est affirmée aussi dans les mêmes années, dans le domaine des mœurs. Il faut y revenir avec le cas tout à fait topique d'Oscar Wilde en Angleterre, mais qui est suivi de très près chez nous. Il y a un livre, par exemple, d'André Gide qui lui est consacré.
Oui, absolument. Donc l'affaire des mœurs commence dès le milieu des années 80 parce que la République doit affirmer sa respectabilité face aux autres nations et face aux ligues de moralité qui entreprennent un combat, une lutte acharnée contre la pornographie. La deuxième génération des naturalistes vont être les premiers visés. Ils sont attaqués, donc on a mentionné le procès de Lucien Descaves, mais il y a également une autre série de procès qui visent des naturalistes parce qu'ils traite de questions comme la sexualité, comme les déviances, la prostitution, la révolte sociale. Donc un ensemble de phénomènes qui sont traités à l'époque par des spécialistes. Et Zola, en réclamant la posture de l'écrivain expérimentateur, se revendique comme savant. Son modèle, c'est effectivement le médecin, la médecine.
Le romancier comme expert, c'est une chose très nouvelle.
Voilà, alors il a tenté d'imposer cette figure et c'est un échec. Pourquoi ? Parce que sans doute, outre que les écrivains n'ont pas réussi à se professionnaliser au même sens que les autres spécialités à cette époque, les médecins notamment, la République aussi s'appuie sur la médecine, le schème normal pathologique remplace le bien et le mal religieux. Donc Zola va échouer et les naturalistes aussi parce qu'en fait, une des raisons, c'est une raison de langage, c'est-à-dire que les spécialistes abordent ces réalités impures avec les gants du langage, du vocabulaire technique. Or, les écrivains, eux, adoptent le langage du milieu qu'ils décrivent. D'une certaine manière, ce langage, ils sont comme contaminés par leur objet. Hein. Et donc, ils se trouvent eux-mêmes chargés d'impureté,
oui,
ce
alors,
qui leur vaut
ces
procès.
Dans le cas de l'homosexualité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, à propos d'Oscar Wilde, effectivement, la question était traitée dans des livres de médecine, avec une pudeur affichée, des circonlocutions souvent, alors que là, le problème de l'homosexualité est posé avec beaucoup d'éclat et le retentissement n'est pas seulement en Angleterre.
En Angleterre, l'homosexualité est interdite par l'amendement de 1885. En France, elle n'est pas interdite, mais c'est considérée comme une déviance, en fait. Donc, elle est conçue sous la forme pathologique. L'effet du procès de Wilde en France, c'est un peu la destruction de la posture de l'art pour l'art. Parce que Wilde revendiquait cette posture de l'art pour l'art. Il en avait fait son éthique. Pour lui, il n'y avait d'autre morale que la beauté. Et Wilde rejetait les effets sociaux de l'art. Il rejetait l'idée que l'écrivain soit soit responsable des effets de son œuvre sur le lecteur. Il développe la théorie de la responsabilité des lecteurs, une théorie de la réception. Et d'ailleurs, le portrait de Dorian Gray, c'est une incarnation de cette théorie. Personne ne connaît les péchés de Dorian Gray. Donc c'est le lecteur qui projette en fait ses crimes et ses péchés supposés, qui doit les deviner. Donc c'est un test pour montrer la responsabilité du lecteur.
C'est ce que dira d'ailleurs Roland Barthes beaucoup plus tard. Il insistera sur la responsabilité du lecteur.
Barthes incarne bien cette filiation de Flaubert et qui passe aussi par Wilde. Le problème, c'est que cette posture esthète de Oscar Wilde va être prise comme un défaut de sens moral par certains moralistes de l'époque, comme Max Nordau, mais avant lui, Jean-Marie Guyot, un sociologue. L'effet de ça, ce sera de développer la théorie de l'artiste dégénéré que Wilde incarne. Zola a fait également l'objet d'études montrant, par exemple, que le recours aux gros mots dans ses romans ou la mention des odeurs dans son roman était le signe d'une pathologie qui montrerait qu'il y a une tare originelle chez Zola.
Les caricaturistes de droite, d'ailleurs, le représentent sortant de latrine, surgissant. C'est une violence incroyable. Et à propos de Wilde, il faut rappeler tout de même qu'il a été traîné en justice et condamné au maximum de la peine, c'est-à-dire à 2 ans de prison.
Oui, absolument. Et il sort complètement meurtri de ses années de prison. Sa carrière est terminée. Il se réfugie en France et il va mourir dans la plus grande misère. Très tristement, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Gilles Levoix le rencontre, parle avec lui et a écrit ce petit livre sur lui. Donc c'est une histoire très triste.
Le problème est probablement accentué sous la Troisième République. On laisse le champ libre à des pamphlets dont la violence surprend quand on les relit aujourd'hui. Par exemple, d'un homme comme Léon Daudet, tout ce qui part de l'extrême droite, de l'Action française.
Il y a Léon Daudet, il y a Léon Blois également qui développe ce nouveau genre du pamphlet très, très littéraire. Le pamphlet était un genre ancien, qui remonte à l'Ancien Régime. Il se définissait par sa forme courte, qui le rendait dangereux parce qu'en étant court, il pouvait viser un public large. Et c'était conçu comme une littérature d'action. Hein, ça remonte au pamphlet de la Ligue et aussi aux Mazarinades. Et d'ailleurs, dans le procès de Paul-Louis Courier en 1821, c'est le genre du pamphlet qui lui est reproché. Courier revendiquait précisément l'objectif de faire connaître la vérité aux gens qui n'ont pas le temps de lire des gros volumes. C'était une revendication démocratique. Et Courier, d'ailleurs, a littérarisé le pamphlet. Hein. C'est le premier qui vraiment en fait un genre littéraire. Mais ce genre, en tout cas, le genre du pamphlet, se transforme sous la Troisième République et prend une tournure, comme vous le dites, de plus en plus acerbe, de plus en plus virulente. Marc Angenot a consacré un livre à la parole pamphlétaire qui montre que, en fait, c'est une parole qui met en scène un personnage indigné qui prend la plume pour dénoncer un scandale et crier la vérité. Et ce faisant, il prend des risques. Et cette prise de risque fonde sa légitimité, en fait, à parler, à prendre la parole et garantit la sincérité de sa démarche.
Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, est tout à fait représentatif à cet égard. Il a fait un portrait de Dreyfus qui reste célèbre par sa violence. Il écrivait « Il n'a plus d'âge, il n'a plus de nom, il est couleur traître, il est couleur traître. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto. » Et il y a fabriqué du côté de l'Action française des livres, des pamphlets d'une violence étonnante aujourd'hui et qui nous apparaît assez ignoble, en direction d'un certain nombre d'hommes politiques. Par exemple, Barthou, le garde des Sceaux, écrit SEAUX, par exemple, contre Briand, le voyou de passage, pour ne pas parler du nain de Lorraine, qui était Raymond Poincaré. Et Mauriac écrit de Léon Daudet en 1946, il est mort depuis 4 ans, « Une existence consacrée à l'invective, comme celle de Léon Daudet, prend toujours sa source dans un cimetière d'œuvres avortées. »
Oui, c'est l'idée que c'est le genre des écrivains ratés, en gros. Mais
la responsabilité, là encore, du talent qui va se dévergonder aux dépens de ce qu'on pourrait écrire de beau ou de noble ou de représentatif de valeurs suprêmes.
Oui, c'est ce qu'on reproche aux écrivains pamphlétaires à la Libération. Ce qui est certain, c'est que par rapport à cette définition de la prise de risque du pamphlet, ces écrivains qui incitent à la haine contre des citoyens appartenant à des minorités ou des gens occupant une position dominée dans l'espace social ou en écrivant dans un contexte où leurs adversaires sont bâillonnés, des pamphlétaires comme Céline ou comme Rebatté, qui est l'auteur des Décombres, hein, qui est paru en 1942, ils ne prennent aucun risque, en fait, contrairement à cette figure du pamphlétaire. Donc ils ne prennent aucun risque et au contraire, ils ont tous les bénéfices d'une situation où ils ont la parole sans contradiction.
Oui, le livre de Rebatté qui a été republié depuis est tout à fait symptomatique de cette littérature de haine, d'antisémitisme. Quand Brasillach a été finalement fusillé, on a rappelé qu'il avait battu le rappel pour qu'on tue Léon Blum, Mandel, Paul Reynaud et les autres. Ce ne sont pas chez les écrivains de cette période des mots qui sont des mots anodins, ce sont des mots qui font balle.
Quand Rebaté écrit Les Décombres dans un contexte de suppression de la liberté d'expression et de contrôle étroit de la parole, il attaque en fait toutes les fractions qui sont réduites au silence par les pouvoirs en place. Et lors de l'instruction de son dossier, il a demandé est-ce que les polémistes ne font pas plus de bruit que de mal ? Ce qui était bien sûr une manière de se dédouaner de sa responsabilité. Or, Rebaté, comme beaucoup d'intellectuels collaborationnistes, donc, ont été les premiers, après la défaite de 40, à dénoncer la responsabilité des écrivains de l'entre-deux-guerres dans la défaite. Donc, à penser que l'écriture avait des effets sociaux. Et d'ailleurs, quand il fait ça, c'est une manière aussi de les désigner au pouvoir public, hein, parce qu'on est dans une époque où il s'agit d'énoncer les responsables de la défaite.
Je voudrais que nous terminions notre conversation, Gisèle Sapiro, avec une citation de Jean Giono. Vous allez voir que ses propos sont assez nuancés. C'est une archive qui date de son grand âge, 1965. Mais il évoque l'entre-deux-guerres où il a pris des positions pacifistes, notamment après le début de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a valu de passer quelques mois en prison. Jean Giono.
Tout le monde a une responsabilité. Alors l'écrivain en a une aussi, mais ça n'est pas pour ça qu'il est engagé. Parce que comment voulez-vous qu'il s'engage ? S'il s'engage, à ce moment-là, il devient un homme politique, il ne devient plus un écrivain.
Pour en revenir à toutes les œuvres que vous avez écrites avant la guerre, c'est-à-dire dans la période de 1930 à 1940, oui. Il y a, de votre part, un engagement direct.
Qu'appelles-tu un engagement direct ? Non, il y a tout simplement un personnage qui raconte une histoire, et si cette histoire s'engage, ça n'est pas lui qui l'a fait engager, c'est par le sens même de l'histoire qu'elle s'engage.
Parce que...
Je ne vois pas d'ailleurs dans quel sens tu pourrais engager Colline, de Beaumune et Regain.
Non, pas du tout, c'est pas...
Ni même le Grand Troupeau.
Tout à fait, non.
Le Grand Troupeau, bon, c'est un livre pacifiste, mais c'est un livre surtout d'un homme qui a fait la guerre et qui déteste la guerre et qui ne veut plus la refaire, voilà tout. Et que tu agis, tu as un engagement formel, tu fais quelque chose, tu pèses dans la balance du monde. Tu modifies le monde ou tu le transformes d'une certaine façon, en bien ou en mal, beaucoup ou peu, mais tu as quand même une action. Tout le monde, tous les travailleurs, n'importe qui. L'écrivain a été considéré comme une matière première utilisable par des partis politiques qui en avaient besoin. Alors à ce moment-là, on a mis le phénomène d'engagement en avant pour qu'on puisse précisément peser sur les âmes de ces écrivains. À mon avis, c'est tout simplement ça, pas plus.
Mais vous avez envoyé un message au moment de la entre Munich et 39, en fait,
oui.
Avec Langevin,
Alain.
Mmh. Je ne me souviens plus.
Pas Langevin, non.
Non, c'était pas Langevin.
Non, il y avait Alain, il y avait je ne sais plus qui, je ne sais pas. Je me souviens d'Alain.
Oui, et vous estimez que votre action n'a servi à rien.
Absolument à rien. Absolument à rien. Ça n'était qu'une satisfaction personnelle pour moi. Il se trouvait que, par la force des choses, mon nom représentait peut-être quelque chose vis-à-vis de certaines personnes. Alors, on m'a demandé de l'utiliser. Et dans ce sens, j'aimais beaucoup qu'on l'utilise. Alors, je l'ai utilisé. C'est tout. Mais autrement, ça n'a servi à rien du tout. Ça n'a servi qu'à me faire mettre en prison un peu plus tard.
Il s'agit en fait d'un document qui s'appelle « Pour la paix immédiate » qui a été signé par Jean Giono, effectivement, Alain, par Michel Alexandre, aussi par Louis Lecoing et d'autres, qui intervient après la déclaration de guerre de septembre 1939. Un Giono très, très en retrait par rapport à l'efficacité possible des interventions de l'écrivain.
Oui, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'il parle de... On voit bien comment le nom de l'écrivain peut fonctionner comme un capital symbolique, précisément, parce qu'il parle du détournement et de l'appropriation par les politiques, mais aussi le fait qu'il est prêt à prêter son nom pour soutenir une cause. Donc, en ce sens-là, on voit bien ce fonctionnement et d'où l'intérêt de cette notion. Mais en même temps, justement, la conception sartrienne de la littérature engagée, elle est contre cette appropriation de l'écrivain par le politique. Sa conception, elle est autonome et c'est aussi contre les intellectuels communistes qui l'élaborent à la Libération.
Merci beaucoup. Merci Gisèle Sapiro. Votre livre à paraître le 3 mars s'appelle « La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France du 19e au 21e siècle » aux éditions du Seuil. Je rappelle également que dans le cadre de la journée Céline, entre autres émissions, vous pourrez entendre Hélène Azéra, qui aborde les relations entre Céline et la chanson populiste, vous savez comme nous aimons la chanson ici, la chanson populiste de la Belle Époque dans Chanson Boom. Et puis la fiction diffuse à 20h une lecture du Voyage au bout de la nuit de Céline par Michel Piccoli, un enregistrement de 1986. J'engage nos auditeurs et nos auditrices à ne pas manquer ce rendez-vous. Samedi prochain, je recevrai Franck Daninos pour parler avec lui du poker subversif, longtemps avant qu'il triomphe sur Internet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti et celle aussi de Jeanne Guéroux, Jérôme Bonnetin à la discothèque de Radio France, Michel Mestre à la prise de son, et pour les Archivina, Annabelle Miaille. Et dans quelques instants, Dominique Rousset pour le rendez-vous des politiques.